Véroa Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bienvenue dans cette édition du 31 août 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Côte d'Ivoire, les candidatures de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, radiés des listes électorales, ont été déposées par leurs partisans. La police rwandaise a arrêté Paul Rusesabagina, dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, l'accusant d'actes de terrorisme. Signature d'un accord de paix entre Khartoum et des groupes rebelles du Soudan. Le premier vol commercial direct entre les Émirats Arabes Unis et Israël s'est posé à Abu Dhabi en provenance de Tel Aviv. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et des sports. En Côte d'Ivoire, les partisans de Laurent Gbagbo, qui est en Belgique, ont déposé sa candidature à la présidentielle d'octobre à la commission électorale. Celle de Guillaume Soro a aussi été déposée. Yacouba Ouédraogo.
Nous venons de déposer le dossier de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, que nous avons sollicité pour être notre candidat à la présidentielle, a affirmé Georges Arma Wenyen, président de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Il a été accompagné, entre autres, par Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président. Laurent Gbagbo a été radié des listes électorales à cause de sa condamnation en janvier 2018 à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour l'attaque de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest lors de la crise de 2010-2011. M. Wenyen a attribué cette radiation, je cite, à des manœuvres juridico-politiciennes. Le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité devant le peuple ivoirien et l'histoire de se prononcer sur la validité de la radiation et de statuer sur l'éligibilité de M. Gbagbo, a affirmé Georges Arma Wenyen. L'ancien président ivoirien est en liberté conditionnelle en Belgique après son acquittement en première instance par la CPI. Entre autres candidats, le président Alassane Ouattara et l'ancien président Henri Konabédié ont déjà déposé leur candidature. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 16 septembre pour donner la liste des candidatures validées.
La junte militaire au Mali a engagé ce lundi une série de consultations avec les acteurs politiques, sociaux et religieux. La junte a programmé une série d'audiences avec les forces vives de la nation en préparatif des assises sur le format de la transition, dit-elle sur son compte Twitter. Au programme, des rencontres séparées avec des représentants de partis politiques, de syndicats, du patronat, de la diaspora et des communautés religieuses. Les vols internationaux reprendront mardi au Ghana, a annoncé le président Nana Akufo-Addo. L'aéroport de Kokota près d'Accra est fermé depuis le mois de mars au même titre que les postes frontières. Tout passager arrivant au Ghana devra être muni d'un test Covid-19 négatif réalisé dans son pays d'origine et devra en repasser un à ses frais à son arrivée. Si le test est positif, les passagers seront pris en charge par les autorités sanitaires ghanéennes. La police rwandaise a annoncé avoir arrêté Paul Rusesabagina, dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, l'accusant d'actes de terrorisme. Les enquêteurs lui imputent des incendies, enlèvements et meurtres commis en juin et décembre 2018. Notre confrère Athanase Karayenga revient sur les dernières arrestations liées au génocide rwandais.
Le temps plus important, son arrestation, il me semble, c'est une série. Il y a une série qui interroge. Il y a Calix Salima, qui était le porte-parole du FLN, le Front de Libération Nationale, en partie créé justement par Rusesabagina Paul. Ce Calix Salima, alias Sankara, a été arrêté. Il y a tout récemment Félicien Kabuga, qui était réputé être le financier du génocide. Il est aussi au Rwanda. Et puis, il y a quelques jours seulement, Aloïse Nawira Gabo, qui était le chef des renseignements militaires à l'époque du génocide, vient d'être arrêté aussi en France du côté d'Orléans. Ces arrestations donnent un signal très fort à tous les présumés coupables de crimes graves commis en Afrique. Ça donne un signal que vous n'échapperez pas à la justice, tôt ou tard, même 26 ans après.
C'était le journaliste burundais Athanase Karayenga. En République démocratique du Congo, le décès d'une star du catch a suscité de nombreux hommages ce lundi pour son combat contre les discriminations. Alphonse Mwimba Makiese, alias Texas, est décédé dimanche à Kinshasa à l'âge de 54 ans. Atteint d'albinisme, il a milité pour que tous ceux touchés comme lui apprennent à vivre avec cette maladie génétique. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a rendu hommage à son engagement humanitaire. Les autorités de Khartoum ont signé un accord de paix historique avec plusieurs mouvements rebelles à Juba, au Soudan du Sud. Depuis 17 ans, la guerre, en particulier dans le Darfour, a fait des centaines de milliers de victimes. Claire Moragibour.
C'est lors d'une cérémonie à Djouba, au Soudan du Sud, que ces accords ont été paraphés en deux temps. D'abord avec les mouvements rebelles du Darfour, puis avec le mouvement rebelle du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Entre le passage de chaque groupe de signataires, un orchestre entonnait des chants traditionnels. Les ennemis d'hier, Mohamed Abdan Daglo, vice-président du Conseil de souveraineté, et les chefs des mouvements rebelles, regroupés au sein du Front révolutionnaire soudanais, se sont serrés la main et ont même initié quelques pas de danse. D'autres accords portant sur le développement du pays ont également été paraphés avec des responsables politiques et tribaux de plusieurs régions. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, était présent à la tribune aux côtés du général Abdel Fattah al-Burhan, qui préside le Conseil souverain à la tête du Soudan, et le premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok. Monsieur Kiir a paraphé l'accord en tant que témoin. C'est le premier succès des dirigeants soudanais depuis la chute d'Omar el-Béchir au printemps 2019.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège ont salué cet accord, estimant qu'il posait les fondations pour une paix durable au Darfour. Les trois pays ont appelé deux groupes qui étaient absents, le MLS d'Abdelwahid Nour et le SPLA Nord d'Abdelaziz Al-Ilou, à prendre part à des négociations sérieuses avec le gouvernement du Soudan pour tenir la promesse d'une paix globale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier vol commercial direct entre les Émirats Arabes Unis et Israël s'est posé à Abu Dhabi en provenance de Tel Aviv, quelques semaines après l'annonce de la normalisation des relations entre les deux pays. Les précisions sur ce vol historique avec Dili Dico.
L'avion de la compagnie israélienne El Al a atterri à 15h39 local, 11h39 GMT, avec à son bord une délégation américano-israélienne. Pendant le vol, le Boeing 737 a survolé l'Arabie Saoudite, une première autorisée par Riyad. La délégation, emmenée par Jared Kushner, conseiller à la Maison-Blanche et gendre du président américain Donald Trump, a été accueillie sur tapis rouge. Avant le décollage, M. Kushner a souligné sur le tarmac de l'aéroport qu'il s'agit d'un vol historique qui, il l'espère, sera le début d'un périple encore plus historique pour le Moyen-Orient. Les Émirats Arabes Unis et Israël ont annoncé le 13 août un accord pour normaliser leurs relations officieuses depuis des années. Ils deviennent ainsi le premier pays du Golfe à changer le statut de sa relation avec Israël et le troisième du monde arabe après l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. Pendant deux jours, les délégations américaines et israéliennes vont rencontrer des responsables émiratis pour des discussions sur la sécurité, le commerce, la coopération scientifique, le tourisme et les procédures de visa pour les futurs voyageurs.
Les Émirats Arabes Unis ont envoyé une aide médicale en Syrie pour lutter contre la pandémie de coronavirus, a annoncé le Croissant Rouge syrien. Cet envoi intervient quelques mois après des contacts entre le président syrien Bachar al-Assad et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, qui ont échangé au téléphone en mars pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a annoncé un accord pour mettre fin aux échanges de tirs avec Israël quasi quotidiens au mois d'août. Au terme de dialogues et de différents contacts, le dernier en date avec l'émissaire du Qatar, Mohamed El Emadi, un accord a été conclu pour contenir l'escalade, a déclaré le Hamas dans un communiqué. Les États-Unis ont appelé la Russie à respecter la souveraineté du Bélarus en réponse au président Vladimir Poutine qui s'est dit prêt à intervenir chez son voisin si les protestations contre le pouvoir dégénéraient. Le nombre de Bélarusses qui protestent démontre que le gouvernement ne peut plus ignorer l'appel du peuple en faveur de la démocratie, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gibourg.
Au Sénégal, le Covid-19 a porté un véritable coup de massue au trafic aérien. Une baisse de 51% du nombre de passagers a été enregistrée au premier semestre 2020, comparé à la même période de l'année 2019, selon les données de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Une situation logique suite à la fermeture de l'espace aérien par les autorités pour éviter les cas d'importation de coronavirus. Le fret a beaucoup moins souffert, près de 15 400 tonnes contre plus de 19 000 tonnes un an auparavant. AngloGold Ashanti et Barrick Gold ont convenu de vendre leur participation de 80% dans la mine d'or de Morila au Mali à la société australienne Mali Lithium pour 27 millions de dollars selon Financial Afrique. Le montant final de la vente sera fixé après l'évaluation du crédit d'impôt avec le gouvernement malien et le règlement des prêts interentreprises. L'or dont l'offre mondiale va croître sur les 10 prochaines années, selon l'agence de notation financière Fitch, cette hausse sera soutenue principalement par l'Australie et la Russie, même si l'Afrique ne sera pas en marge de cette tendance. Toujours selon Fitch, la production africaine va augmenter du fait de l'intérêt constant des investisseurs et des fonds conséquents investis par les compagnies dans l'exploration aurifère.
Dans les sports, présenté par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Cette triste nouvelle pour commencer. Alphonse Mwemba Makise, star congolaise du catch qui a mis sa notoriété au service de la défense des albinos en République démocratique du Congo, est décédé hier à Kinshasa à l'âge de 54 ans. Toujours vêtu d'un rouge éclatant, Alphonse Mwemba Makise, alias Texas, était l'un des catcheurs les plus populaires de Kinshasa. Albinos, il a milité pour que ceux et celles touchés comme lui apprennent à mieux vivre avec cette maladie génétique. Initiateur de la Fondation Mwemba Texas pour le bien-être des albinos et des autres vulnérables, ce lutteur était un homme exceptionnel qui avait le souci d'aider les autres. Il a tout donné pour la cause des albinos, selon M. Dien Zenza. Le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme a rendu hommage, je cite, à un défenseur des droits de l'homme engagé dans la promotion et la défense des droits de tous. Football féminin, l'Olympique Lyonnais a enrichi son incroyable palmarès d'une 7e étoile en Ligue des Champions, la 5e de suite en battant les Louves de Wolfsburg 3-1 dimanche en finale à Saint-Sébastien. L'absence majeure d'Ada Egerberg, héroïne de la dernière finale avec un triplé express contre Barcelone 4-1, n'a pas grippé la machine à gagner lyonnaise. Sans la Ballon d'Or 2018, forfait au Final 8, la lumière est venue d'Eugénie Le Sommer, 25e minute, Saki Koumagé à la 44e minute et la recrue Sarah Gurk, Gunnar Sdorstir à la 88e minute, venue cet été de Wolfsburg. Toujours en Europe, Robert Lewandowski, le buteur du Bayern Munich, a été élu pour la première fois footballeur de l'année en Allemagne après avoir marqué cette saison 34 buts en Bundesliga et 15 en Ligue des Champions. Sur 525 suffrages exprimés cette année, Lewandowski en remporte 276, très loin devant ses deux dauphins et coéquipiers au Bayern Munich, Thomas Müller et Joshua Kimmich. Le Polonais de 32 ans a remporté le deuxième triplé Coupe Championnat Ligue des Champions de l'histoire du club bavarois. Chez les dames, Pernille Harders, finaliste malheureuse de la Ligue des Champions avec Wolfsburg. Basketball, les Los Angeles Clippers ont décroché leur ticket pour les demi-finales de conférence en battant dimanche les Dallas Mavericks 111-97 lors des playoffs à Orlando. Déjà en demi-finale, les Toronto Raptors, tenant du titre, ont de leur côté perdu le premier match contre les Boston Celtics 112-94. Du côté des Raptors, à la peine offensivement, Serge Ibaka a apporté un peu de tonus, 15,9 rebonds
La franchise canadienne a été trop maladroite, surtout en première mi-temps. Kyle Lowry a inscrit 17 points et Pascal Siakam 13 points.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. L'un des quotidiens américains les plus influents, le Washington Post, a recruté la journaliste et réalisatrice africaine Rokhaya Diallo comme contributrice pour une tribune réservée aux journalistes étrangers. Madame Diallo écrit chaque mois sur des questions de race et de genre. L'une de ses dernières parutions évoque les répercussions en France du meurtre de George Floyd aux États-Unis. Claire Morin-Gibourg la jointe à Paris. Rokhaya Diallo revient sur les débuts de sa contribution au Washington Post.
En réalité, j'ai commencé à écrire pour le Washington Post il y a 2 ans. C'est l'ancienne rédactrice en chef de la rubrique Global Opinion, qui s'appelle Karen Attia, qui m'avait repérée sur les réseaux sociaux début 2018 et qui avait commencé à échanger avec moi en me disant que pour ce qui était de l'Europe et en particulier de la France, il était vraiment en recherche de nouvelles voix qui étaient capables de parler de la France autrement. À partir de ce moment-là, régulièrement, je proposais des articles, des tribunes, et je l'ai fait de manière un petit peu informelle comme ça jusqu'à cette année. Mais pendant le confinement, j'ai écrit plusieurs fois, j'ai proposé des articles sur plusieurs faits sociaux, sur la manière dont le confinement était géré en France, où on accusait plus ou moins les populations pauvres d'être à l'origine du non-respect des règles, etc., etc. Et comme plusieurs articles sont arrivés de manière continuelle, en fait, le nouveau rédacteur en chef, Eddie Lopez, m'a contacté en me disant qu'il aimait bien ce que j'écrivais et en me demandant si j'étais OK pour une contribution qui serait contractualisée. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils m'ont proposé un contrat et qu'il a été annoncé cette semaine.
Quels sont les sujets sur lesquels vous avez envie d'écrire, les sujets qui vous passionnent, vous qui êtes journaliste, femme et noire et qui vous vous exprimez beaucoup sur le racisme, les discriminations en France et ailleurs?
Eh bien, il se trouve que la rédaction du Washington Post Global Opinion m'ont dit qu'ils étaient vraiment intéressés par toutes les tensions en fait, qui traversaient la société française. Et c'est vrai que jusqu'ici, j'ai beaucoup écrit sur soit les quartiers populaires français, sur la pauvreté, sur le sexisme, sur le racisme et sur l'immigration. Et là, je peux vous dire que mon premier article depuis la signature de mon contrat vient de paraître. Et c'est sur un peu comment les nouvelles voix parmi les activistes ou les jeunes politiques français font bouger en fait l'ancien monde, notamment sur les questions féministes, sur les questions d'environnement, mais aussi sur les questions d'identité, de post-colonialisme d'une certaine manière. Donc c'est vraiment tout ce débat qu'il y a en ce moment en France où on estime qu'il y aurait une cancel culture qui, je pense, n'existe pas, mais qui pour moi traduit vraiment une angoisse par rapport à une génération qui prend la parole et qui fait savoir que certaines activités, certaines actions ne sont plus acceptables désormais.
Qu'est-ce qui intéresserait le plus la rédaction du Washington Post sur ce qui se passe en France?
Ce que j'ai constaté, c'est qu'en tout cas, l'écho qu'a connu la mort de George Floyd en France, notamment en se traduisant par rapport à des problématiques locales, à la mort de Adama Traoré, ce jeune homme français d'origine malienne qui est mort entre les mains de gendarmes, ça a beaucoup, beaucoup intéressé la presse étrangère, en particulier la presse américaine. De savoir que finalement, même si aux États-Unis il y avait des tensions raciales énormes, le fait qu'il y en ait en France des violences, des brutalités policières, racistes, et que finalement il y avait Adama Traoré, mais beaucoup d'autres personnes qui en avaient été victimes, ça a beaucoup intéressé. Moi, j'ai fait beaucoup d'interviews à l'époque, j'ai écrit plusieurs articles, parce que tout d'un coup, que les Français s'interrogent à la fois sur leur histoire, sur leur présent, par rapport à ces questions-là, ça les intéresse.
La journaliste franco-sénégalaise Rokhaya Diallo était jointe à Paris.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'acteur afro-américain Chadwick Boseman est décédé vendredi à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer. Il avait connu un succès planétaire pour sa performance dans le film Black Panther qui a remporté plusieurs nominations aux Oscars. Dans son rôle, Boseman a représenté la culture africaine et l'image d'un homme noir fort, le chef d'une nation prospère, un super-héros qui défend son peuple. Arzuma Compaoré a joint à New New York le professeur de cinéma Bukhari Sawadogo, qui revient sur l'impact de Bozeman en tant qu'acteur sur les communautés africaines.
Et en tant qu'Africain, c'est vraiment un personnage qui nous apporte plus d'épaisseur. Je n'ai pas dit que déjà on était petit, mais ça nous permet d'avoir une certaine visibilité, une représentativité dans le monde du cinéma et surtout le monde de l'image, parce qu'on est dans un monde là où tout est image. Imaginez-vous l'enfant tout petit, 4 ans, 5 ans, qui est à la sortie de Wakanda. Cet enfant va grandir avec cette image vraiment de cette Afrique-là, qui n'est pas l'Afrique que ses parents ont connue, en tout cas en termes de représentation. Donc pour lui, il va grandir et puis développer une autre Afrique, une Afrique au-delà des clichés qu'on peut retrouver dans les médias, que ce soit en ligne ou bien tout simplement sur les chaînes de télé.
Alors dans l'histoire du cinéma mondial, ce n'est pas la première fois que des Noirs américains incarnent des rôles d'Africains. Mais qu'est-ce qui a fait la particularité selon vous dans cette interprétation que Chadwick Boseman a eue de King T'Challa dans Black Panther?
Wakanda, ça dépasse le cadre du film. Ça dépasse le cadre d'une production culturelle. Ça devient quelque chose qui, pour moi, qui unit les deux côtés de l'Atlantique, ça veut dire l'Afrique et la diaspora.
En tant qu'Africain, vous aimeriez rendre à Chadwick Boseman, qu'est-ce que ce serait si vous deviez lui dire quelque chose là maintenant?
Et je lui dirais tout simplement Wakanda Forever, parce que là, je pense que c'est sur le plan symbolique et puis sur le plan gestuel, c'est quelque chose qui va rester pour toujours. Si on replace un peu le show dans leur contexte, de nos jours, on voit avec le mouvement Black Lives Matter, les gens voient la genou à terre ou encore le poing levé. Mais ce sont des gestes qui, dans l'histoire, a été fait à un certain moment donné. Et 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, ça reste dans la conscience, ça fait partie de l'identité, ça fait partie de tout mouvement de protestation ou bien tout mouvement de fierté. Et pour moi, c'est ce qui va beaucoup rester. Ça veut dire cette fierté, cette espérance, cet espoir en l'Afrique.
Docteur Bukhari Sawadogo, professeur spécialisé dans le cinéma africain et le film documentaire. La normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël a franchi une nouvelle étape ce lundi avec le premier vol commercial direct entre Tel Aviv et Abu Dhabi. Ce vol inaugural ouvre plusieurs opportunités économiques pour les deux pays et constitue une importante avancée diplomatique pour la région sous la houlette de Washington. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint le politologue Eli Carmon à Tel Aviv.
Pour Israël, c'est vraiment très important. Je dirais même c'est un moment historique parce qu'il y a un accord de normalisation. C'est pas vraiment un accord de paix parce qu'il n'y a pas eu de guerre entre les deux pays, mais quand même c'est un pays arabe très important. Il est très actif dans le monde arabe et surtout dans le Golfe. C'est un pays qui a une activité tant politique comme commerciale et sur le plan du tourisme. Et donc, Israël, non seulement contente du point de vue politique du fait qu'il y a cet accord, mais aussi sur le plan économique, je crois qu'il y aura développement de relations de commerce entre les pays. Il y a la possibilité d'investissement des Émiraux en Israël et aussi la vente de technologies pour l'État arabe. Du point de vue des Émiraux, c'est très important d'abord dans l'alliance, une sorte d'axe contre la menace iranienne.
Justement, pourquoi, par exemple, les Émirats arabes unis et pas un pays comme l'Arabie saoudite?
Dans l'Arabie saoudite, il y a deux aspects. Un aspect interne, je crois que selon des informations publiques, le roi n'est pas tellement content. C'est-à-dire qu'il voudrait avancer la vieille politique ou stratégie de la Ligue arabe, un accord avec Israël peut intervenir seulement s'il y a une solution du problème palestinien. D'autre part, le prince héritier, Mohamed Ben Salman, est beaucoup plus ouvert à cette possibilité.
D'accord. Et que gagnent les États-Unis dans tout cela? Les États-Unis ont beaucoup œuvré pour cet accord. Que gagnent les États-Unis?
Oui, je crois, du point de vue du président Trump, c'était très important, surtout avant les élections, d'avoir un succès sur la politique extérieure. Parce que si nous regardons un peu ce qui s'est passé dans le conflit avec la Corée du Nord, le conflit avec l'Iran ou avec la Chine, ce sont des conflits où le président Trump ne peut pas présenter un succès important. Tandis que cela, c'est un premier pas. C'est pas la paix, disons, au Moyen-Orient, mais c'est quand même un avancement dans la relation entre Israël, qui est considéré un des alliés plus importants des États-Unis, avec un autre allié très important, les Émirats. D'autre part, il y a la question de la vente d'avions F-35, qui sont des avions de chasse très avancés, les plus avancés du monde. Et cela pourrait apporter à l'économie américaine, on parle de 80 milliards de dollars. Donc il y a aussi, si vous voulez, un avantage économique dans le fait que les États-Unis ont médié entre les deux pays.
Élie Carmon est chercheur principal à l'Institut des politiques et stratégies à Tel Aviv.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de la production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et notre page Facebook, nos pages Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été arrêté le 18 août lors d'une mutinerie militaire. Les États-Unis condamnent la mutinerie, de même que nous condamnerions toute prise forcée du pouvoir, a fait savoir le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration. Alors qu'il est rapporté que le président Keïta a été libéré dans sa résidence, il est à craindre que l'instabilité ouvre la voie aux extrémistes cherchant à étendre leur programme islamiste au Mali et dans les pays voisins et mène au déplacement des millions de personnes. En effet, après un coup d'État au Mali en 2012, les rebelles islamistes, certains ayant des liens avec Al-Qaïda, se sont emparés des vastes zones du Mali, y compris l'ancienne capitale culturelle Tombouctou. Dans les zones sous le contrôle des extrémistes islamistes, les Maliens ont été soumis à un strict code religieux, y compris le mariage forcé des femmes, jusqu'à ce que les forces françaises aident l'armée malienne à chasser les djihadistes. Mais les groupes armés continuent de menacer les civils de zones rurales et la violence s'est propagée aux pays voisins, le Burkina Faso et le Niger. Selon les médias, plus de 10 000 Ouest-Africains sont morts et plus d'un million ont fui leur maison depuis 2012. L'émissaire spécial américain pour le Sahel, Peter Pham, a dit clairement sur Twitter « Les États-Unis ne dispensent aucune formation à l'armée malienne en ce moment ». Il a aussi écrit dans un autre tweet « Les États-Unis s'opposent à tout changement extra-constitutionnel de gouvernement, que ce soit par la rue ou par les forces de défense et de sécurité ». Les États-Unis se joignent à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de même qu'aux autres partenaires internationaux pour dénoncer la mutinerie survenue au Mali. La liberté et la sécurité des responsables gouvernementaux détenus et celles de leurs familles doivent être assurées, a souligné le secrétaire d'État Pompeo. Les États-Unis appellent les acteurs politiques et militaires à œuvrer pour le rétablissement du gouvernement constitutionnel. Nous exhortons toutes les parties prenantes au Mali, a dit le secrétaire d'État Pompeo, à s'engager à un dialogue pacifique, à respecter les droits des Maliens à la liberté d'expression et au rassemblement pacifique et à rejeter la violence.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la